Bienvenue à vous tous qui nous écoutez, ici Jonathan Chaignon pour animer ce 7e épisode du Family and Business Podcast. Mon invité aujourd'hui, de par son expérience personnelle et familiale, de par ses choix professionnels, va pouvoir nous éclairer sur la thématique que nous avons choisi d'aborder. Mon invité est aussi une habituée de ce format de podcast puisqu'elle a créé voilà 2 ans le podcast WinXGen que vous connaissez peut-être, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le découvrir. Bienvenue Caroline Lebiez, merci d'avoir accepté de participer au Family and Business Podcast.
Bonjour Jonathan, merci de m'avoir invité.
Avant de commencer, c'est un passage obligé, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors oui, je peux me présenter. Donc, comme vous l'avez dit en intro, j'ai beaucoup de casquettes puisque je suis actionnaire 3e génération d'un groupe familial qui est basé à Saint-Nazaire, qui a été fondé par mon grand-père il y a 50 ans. Et dans cette entreprise, j'ai un rôle non opérationnel. Je m'occupe plutôt de la gouvernance et du sujet de l'affectio societatis, en plus d'être administratrice. J'ai créé un podcast, vous l'avez dit, et je suis rentrée comme partner chez Family & Co. il y a maintenant 1 mois, tout juste, et ravie d'en faire partie.
Bienvenue donc. Caroline, le thème que je vous ai proposé d'évoquer, c'est un thème sur lequel nous communiquons finalement assez peu chez Family & Co, puisque c'est assez négatif, et pourtant nous le rencontrons souvent à divers degrés, sous différentes formes dans nos missions. Nous n'évoquons aussi pas ce thème aujourd'hui par hasard, puisque c'est le thème du premier guide pratique Family & Co qui sera publié dans quelques jours. Je veux parler donc du conflit dans l'actionnariat familial. Tantôt un élément qui déclenche ou qui provoque une remise en question profonde au sein des collectifs d'actionnaires, tantôt annonciateur de difficultés plus ou moins graves ou malheureuses qui peuvent prendre la forme même d'un blocage complet et qui peut rendre difficile toute poursuite de l'aventure familiale. D'après vous, Caroline, le conflit dans l'actionnariat, c'est quoi ?
Alors, le conflit dans l'actionnariat, je peux en parler, je me sens légitime pour en parler, d'autant plus que je l'ai vécu dans ma propre famille il y a environ 5 ans. Et donc, pour en parler, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais, en fait, pour les auditeurs, peut-être repréciser ce que c'est qu'un actionnariat familial. Donc, un actionnariat familial, c'est une famille qui est propriétaire de part d'une entreprise. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir 3 sphères qui vont entrer au contact les unes des autres. La première sphère, ça va être celle de la famille, donc les liens du sang, de l'amour, de l'affect. Une deuxième sphère qui va être celle du patrimoine, donc la propriété, la possession d'un bien matériel, immatériel, le capital en quelque sorte. Et l'entreprise qui va se matérialiser, donc cette sphère-là, plutôt par l'action, le profit, la croissance, la rentabilité. A priori, un domaine qui n'est pas à première vue très compatible avec l'esprit de famille et qui relève plutôt du domaine de l'être, tandis que l'entreprise avec son champ de famille opérationnel relève plutôt du domaine du faire. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que une des premières notions qu'il faut intégrer quand on est soi-même actionnaire en famille d'une entreprise, c'est la dissociation de ce qu'on appelle nos différentes casquettes. C'est-à-dire que dans la famille, on va plutôt aimer ses proches pour ce qu'ils sont. Et lorsqu'un ou plusieurs membres de la famille travaillent dans l'entreprise, on évalue ce qu'ils font. Et donc, tout l'enjeu pour le socle actionnarial va être en permanence d'être en capacité à jongler entre le temps de la famille et le temps de l'entreprise, tout en maintenant le lien entre ces deux mondes. Et c'est d'autant plus vrai que si on représente un schéma avec ces 2 cercles, celui de la famille et celui dans l'entreprise, on voit bien que l'actionnaire, en fait, il se place vraiment au milieu de ces 2 mondes et qui donc, en fait, il va être tout le temps quelque part tiraillé entre sa posture de familiale et sa posture d'actionnaire. Et en plus de ça, ça peut se complexifier s'il occupe un rôle opérationnel de l'entreprise et donc qu'il est dirigeant. Donc maintenant, si on en vient plus précisément au conflit dans un actionnariat familial par rapport à ce que l'on vient de dire, cela signifie qu'un conflit, il peut être donc d'origine intrinsèquement familiale. Donc là, ça va être par exemple le cas des jalousies entre frères et sœurs ou d'événements qui se sont produits au sein de la même famille et qui vont ressortir à un moment donné, donc sans lien avec l'entreprise. On reste vraiment sur le domaine de l'affectif. Le conflit peut être également d'origine patrimoniale. Donc là, ça va être par exemple des désaccords sur la valeur des parts, sur la valeur du versement du dividende, sur l'ouverture du capital, et puis des inégalités supposées ou réelles dans la succession de membres de la famille, le plus souvent les parents. Et puis, il peut également prendre sa source dans l'entreprise. Donc là, par exemple, on peut avoir des conflits parce que un membre de la famille s'est vu refuser un poste dans l'entreprise ou se fait sortir. Il peut y avoir également des désaccords sur les choix du dirigeant, des désaccords sur les stratégies de l'entreprise, les façons de faire. Donc, quand on parle de conflit, ce qui est important de comprendre là, c'est qu'on est bien plus que dans un simple désaccord. Et ça, j'insiste là-dessus. Le désaccord, c'est l'expression d'une divergence de point de vue. Ça n'est pas forcément quelque chose de malsain, ni dans une famille, ni dans une entreprise. Par contre, le désaccord, il va se transformer en conflit à partir du moment où les parties ne sont plus à l'écoute des besoins et des sentiments de l'autre. Un désaccord qui prend une connotation négative, c'est un désaccord qui va se nourrir d'agressivité et qui va devenir un conflit. Donc le conflit puise vraiment son intensité dans les émotions négatives, les égos surdimensionnés, les « j'ai raison », les susceptibilités et les rancœurs. Vous allez avoir un exemple de conflit bien connu, par exemple, qui a défrayé la chronique et qui n'est pas du tout privé, qui est public, c'est celui de la famille Bettencourt dans les années 2010, où là, on est clairement dans une situation de guerre familiale entre une mère et sa fille sur des sujets d'affect, d'amour maternel, sur fond de succession future. Et ce qu'on voit dans tous les conflits d'actionnariat familiaux, puisqu'on a le mélange de l'entreprise et de la famille, c'est que ça aboutit presque toujours à la destruction des liens de la famille. Et donc, quand il se produit chez des actionnaires familiaux, ce que je peux vous dire, c'est qu'il met vraiment la famille à rude épreuve et peut très vite s'avérer être un véritable cauchemar.
Merci Caroline. Donc on a bien compris la différence entre les désaccords et cette notion de conflit. Et je voudrais étayer l'importance du thème de l'épisode en vous donnant deux chiffres qu'on a chez Family & Co. C'est 67% des répondants qui répondent à notre autodiagnostic sur notre site. Donc soutiennent que l'entente au sein de la famille est mise en péril par des tensions ou des crises. Donc 67%. Le deuxième chiffre, c'est quand on pose la question du risque de division au sein des actionnaires, il y a seulement 9% des répondants qui indiquent que ce risque n'existe pas. Donc, aucun risque de division au sein de leur actionnariat. Caroline, si on regarde à la loupe le fonctionnement de ces collectifs d'actionnaires, quels sont les sujets potentiels de discorde, ceux qui reviennent le plus souvent?
Ouais, alors des sujets de discorde, il y en a vraiment à l'appel. Et pour vous en donner quelques-uns, en premier sujet de discorde, on peut trouver tout ce qui va être lié au sujet de succession du dirigeant. Il arrive qu'un fondateur, et c'est quand même assez fréquent, qui a plusieurs enfants, laisse entendre à chacun qu'il dirigera un jour l'entreprise et qui, en réalité, qu'il ne choisisse jamais son successeur en se disant qu'ils s'entendront entre eux après son départ. Mais ça, c'est une erreur pour au moins trois raisons, parce que les enfants n'auront pas été préparés. Bien souvent, ils n'auront effectué que des tâches d'exécutants, parfois au mieux d'adjoints, et aucun ne sera prêt à assumer de nouvelles fonctions comportant la prise de décision. Et alors qu'ils devraient travailler, par exemple, à relancer l'organisation, ce qui se passe, c'est que les enfants perdent parfois leur temps dans des jeux de coulisses qui vont être destinés à augmenter leurs chances d'accéder à la direction. Donc, entre eux, voilà, il va y avoir des crispations, des tensions qui vont naître. Et puis, ce que ça va favoriser, c'est l'apparition de clans dans l'organisation et ce qui fera perdre l'unité d'action nécessaire à la saine gestion. Et puis, pendant ce temps-là, quand on a des enfants qui se disputent, je parlais un peu trivialement, le bout de gras, les autres possibilités, comme par exemple le recours à un gestionnaire professionnel, un manager de transition, seront négligées, alors qu'en fait, elles auraient peut-être certainement constitué une meilleure option. Donc, ça, c'est un des premiers sujets de discorde. En second sujet de discorde, on va trouver tout ce qui est relatif aux divergences de points de vue sur la conduite de la stratégie de l'entreprise. Il va y avoir des perceptions différentes, parfois entre les actionnaires qui ne sont pas impliqués et les dirigeants qui, eux, au contraire, sont au quotidien dans l'action. On va avoir parfois donc des actionnaires familiaux qui sont éloignés du terrain et qui peuvent, avec le temps, avoir tendance à adopter des comportements de méfiance. C'est ce qu'on appelle les passifs méfiants, pour reprendre le terme d'Antoine Maillot. Ce sont des personnes qui vont avoir des tendances plutôt conservatrices, à rester sur des activités historiques, alors que les dirigeants, eux, vont ressentir le besoin de faire évoluer l'entreprise en allant sur des diversifications, des opérations de croissance externe, de sorte à préserver la croissance de l'entreprise ou simplement même la maintenir à flot. Et en troisième exemple, celui qui me vient à l'esprit, ça va être tout ce qui est lié au comportement autocrate. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des jeux de pouvoir. Donc, on a un des membres de la famille qui va chercher à prendre la tête de l'entreprise un peu à la manière d'un putsch ou qui va se conduire de manière, je l'ai dit, autocratique, de manière à imposer son point de vue et ne pas laisser la place aux autres. J'ai par exemple en tête l'exemple d'une entreprise familiale dans laquelle il y avait un frère et une sœur qui travaillaient ensemble depuis une dizaine d'années pendant que le père dirigeait l'entreprise. Et au moment où la question de la transmission s'est posée, le frère a mené une véritable guerre sans merci contre sa sœur pour la sortir totalement du jeu et les pressions étaient telles qu'elle n'a pas pu tenir. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été au moment où en fait le père a annoncé clairement qu'il fallait qu'il y en ait un des deux qui prenne le relais. Jusque-là, tout s'était bien passé entre le frère et la sœur, et à partir du moment où le père avait posé la deadline quelque part, on a eu une personnalité qui s'est révélée et donc qui a complètement en fait mis la pression sur sa sœur et évidemment la fratrie s'est complètement déchirée. Et là, en plus de surcroît, le fait qu'elle soit une femme avait été plutôt discriminant puisqu'en fait, il s'était avéré après discussion que tout au long de sa jeunesse, ce garçon qui était son frère avait été élevé avec l'idée en filigrane qu'il serait l'unique élu. Et puis les conflits peuvent être aussi dans l'autre sens. Un dirigeant qui va tarder à partir. Alors là, souvent, on est plutôt dans le cadre des fondateurs, des gens qui vont avoir plutôt des personnalités très charismatiques, en vieillissant, vont générer également de la frustration sur les enfants et les futurs dirigeants et mener au conflit.
On a parlé donc des moments de conflit potentiels et des désaccords potentiels. Et quelles sont les manifestations les plus fréquentes de ces conflits et désaccords dans les familles ?
Alors là aussi, elles peuvent être multiples, hein, puisque chaque conflit est unique. La réalité, c'est que si on a une coalition qui se forme du côté des actionnaires, il est possible, par exemple, qu'un dirigeant minoritaire soit rejeté. En général, ça se passe de la façon suivante. On a un complot interne entre les actionnaires qui est suivi d'un vote qui destitue le dirigeant. Cela peut également se traduire par le départ d'un actionnaire dirigeant sans vote. J'ai le souvenir d'un dirigeant qui m'avait raconté comment avec son frère, ils avaient presque joué à pile ou face pour savoir qui resterait dans l'entreprise, car ils étaient tous les deux en désaccord sur des orientations stratégiques fortes. Et à l'époque, ils n'avaient pas de conseil d'administration ou de structure de gouvernance qui aurait pu jouer ce rôle de garde-fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ils travaillaient tous les deux dans l'entreprise à des postes de direction, et qui n'étaient pas d'accord sur cette stratégie, il y a un jour, ils ont réuni les actionnaires familiaux et leur ont dit, bah voilà, chacun notre tour, on va vous exposer la stratégie et puis vous allez voter à main levée sur la stratégie qui vous paraît la meilleure. Et puis, celui qui sera mis en minorité devra quitter l'entreprise. Ils étaient d'accord pour jouer à ce jeu, cela étant, un des frères s'est retrouvé mis en minorité, a dû quitter son poste de direction, et ça a créé en fait une véritable scission parmi les actionnaires, puisque lui avait un poids quand même dans l'actionnariat assez important, et ça a complètement fait voler en éclats la famille. Voilà. En autre manifestation en tête, j'en ai parlé un petit peu là tout de suite, ça peut être la gérontocratie, avec des dirigeants qui atteignent les 80 ans et qui prolongent de manière indéfinie leur mandat, et avec des gens derrière qui, à 60 ans, attendent que la génération qui précède veuille bien laisser sa place. Donc là, c'est vraiment, ça va générer énormément de frustration qui peut aboutir au conflit et à des décisions parfois violentes. Voilà. On peut avoir aussi en manifestation concrète des dictatures de majoritaires ou de gros porteurs qui sont forcément mieux représentés, qui vont avoir mieux accès à l'information et qui vont exercer un lobbying sur les dirigeants et de facto vont avoir quelque part un effet de pression sur des plus petits porteurs pour qui ça va être beaucoup plus difficile de faire entendre leur voix. Une fois encore, ce que je vous disais, quel que soit le type de conflit, ce qui a été mis en évidence, c'est son impact sur les résultats de l'entreprise, parce qu'un conflit qui dure génère au mieux une stagnation de la croissance d'entreprise et au pire une régression. Parce que le conflit, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il imprègne les dirigeants et l'énergie qui est passée à gérer un conflit, elle n'est pas mise sur les autres sujets. Donc, ça va forcément avoir tout un impact, en fait, jusqu'au bas de l'entreprise sur beaucoup de sujets. Et puis enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la presque et seule unique manifestation qu'on va retrouver dans un conflit d'actionnariat familial, c'est que en général, elle pulvérise la famille, et ça, c'est dramatique parce que il n'y a pas souvent de retour en arrière possible.
Et alors, au-delà de l'anticipation donc de ces conflits, qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation?
Alors moi, j'aime bien l'expression anglo-saxonne, c'est « flight, freeze, fight ». Ça, c'est vraiment la réaction, on va dire, reptilienne. C'est que la première, face à un conflit, c'est de dire « bah moi, je taille ma route, je pars, je ne veux rien avoir à faire avec ce conflit et donc après moi le déluge ». Donc c'est clairement pas une bonne solution puisque c'est quelque part choisir l'option du déni et donc quelque part faire une croix sur ses propres besoins ou créer des arrangements avec la famille ou en tout cas une partie de la famille. Deuxième réaction, c'est freeze. Je suis complètement abasourdie, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus réagir en fait. J'ai peur face au conflit. Donc là, c'est une réaction, on va dire, normale de la peur face au cerveau. On est complètement paralysé et donc face au conflit, on n'a aucun moyen d'action. Et donc, on se laisse quelque part envahir par ces émotions et par cette situation conflictuelle sans pouvoir réagir. Et puis ensuite, il y a la troisième option qui est fight. C'est, il y a un conflit, mais moi, je vais pas me laisser faire parce que j'ai des besoins, j'ai des droits à faire valoir. Et donc, légitimement, je vais aller au combat sur ce conflit. Et donc là, ce qui se passe, c'est que comme les discussions ne vont pas forcément aboutir, il va y avoir une escalade dans les tensions. Et puis, on le voit dans certaines familles, ça se termine forcément sur un conflit qui prend une ampleur et une tournure judiciaire. Et donc là, les liens familiaux, je peux vous en assurer, ils sont complètement rompus et on ne se communique plus que par avocat, par courrier d'avocat, par avocat interposé. Donc ça, c'est les trois réactions qu'on remarque lorsqu'il y a une situation de conflit. Alors, ce qu'on peut faire, effectivement, la première chose, c'est quand même plutôt d'essayer d'aller vers une solution de dialogue avec la personne qui va générer ou qui va être à l'origine de la situation de conflit. Et si on n'arrive pas à le faire soi-même, je crois que quand même une des bonnes solutions, c'est de faire appel à un tiers de confiance. Donc là, on peut se faire accompagner un médiateur. Le médiateur, c'est quelqu'un qui va être complètement neutre, qui ne prend pas parti, mais qui va écouter les besoins de chacune des parties et faire en sorte qu'elles arrivent à un accord amiable pour éviter de partir ensuite sur des poursuites judiciaires.
Donc là, on a bien parlé des situations de conflit où c'est quasiment du blocage ou même de la guerre de tranchées. Quand on arrive au désaccord ou bien avant, donc pour les anticiper, comment on fait vivre le SOX actionnarial pour prévenir de ces situations?
La première chose, ça va paraître du bon sens, hein, mais c'est la communication, parce que c'est un des maîtres mots de l'actionnariat familial, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une circulation de l'information. Il faut mettre les mots sur les sujets qui pèsent. C'est pas évident, surtout quand on est dans des relations de famille. Donc ça passe par une communication de l'information de l'entreprise vers les actionnaires familiaux, la communication sur ce qui se passe aussi dans la famille, être en capacité de se prendre des nouvelles, de se réunir, de parler des sujets. Et ce bon niveau d'information en fait des actionnaires familiaux, il est très important, notamment lorsque les performances de l'entreprise ne sont pas en rendez-vous, parce que vous imaginez quand des actionnaires découvrent au dernier moment que les performances ne sont pas bonnes et qu'ils n'ont pas été tenu informé, en général, ça crée énormément de crispation. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il ne faut pas ignorer les divergences parce que on a tous, en fait, dans des familles de voilà des divergences de points de vue. Et si on ne les traite pas, ça va souvent se terminer en conflit de personnes. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment bien identifier les sujets à risque dans l'actionnariat familial et se faire accompagner pour poser les sujets sur la table. En débattre, trouver les solutions qui permettent à chacun d'être entendu sur ses besoins. Et je pense que ce questionnement doit être fait avec un expert indépendant et avec méthode et objectivité pour être efficace. On peut aussi tabler sur la structuration de la concertation entre les actionnaires. Donc là, ça rejoint vraiment le sujet de la communication, mais en réalité, pour que l'affectio societatis se développe entre les actionnaires, il est vraiment important de se mettre en tête qu'il faut rester entre actionnaires familiaux dans un processus d'amélioration continue des relations. Et donc là, ça passe par au moins deux fondements qui sont la dimension relationnelle, c'est-à-dire la volonté de chaque actionnaire de s'engager activement dans un rôle, quel qu'il soit, et des aspects organisationnels qui permettent d'exprimer la volonté commune des actionnaires au travers de la mise en place d'un projet écrit des actionnaires et d'outils de pilotage de la gouvernance. Donc sur les outils de pilotage, on va avoir la charte de famille, les statuts, les pactes et puis des outils d'animation qui vont être le conseil de famille ou family board et puis le conseil d'administration, conseil de surveillance qui vont être plus propres à la stratégie de l'entreprise. Et puis enfin, ce qu'on entend aussi souvent, c'est des actionnaires qui se sentent prisonniers du capital. Ils veulent en sortir, mais pour cause de problèmes de liquidité, sont contraints de rester. Donc, si on peut, il faut quand même pouvoir essayer d'ouvrir la possibilité aux actionnaires de quitter le capital totalement ou non, parce que cela revient finalement leur offrir l'opportunité de choisir de rester associés. Donc ça, c'est vraiment important, surtout lorsque on voit qu'il y a des actionnaires qui n'ont vraiment plus rien en commun avec les autres membres et qu'ils ne souhaitent pas s'engager sur une voie de relationnel fort, en tout cas dans une communauté d'actionnaires. Et donc, mettre en place ce système de liquidité du capital, ça peut permettre le rachat d'actions d'un associé aussi en cas de désaccord avec la stratégie de l'entreprise ou en cas de besoin individuel spécifique et donc d'assurer la robustesse du socle actionnarial. Et donc, en fait, il y a trois objectifs qu'on constate dans la mise en place d'un système de liquidité du capital. En général, c'est recentrer ou orienter l'actionnariat pour toute ou partie de la famille. Ça permet d'éviter les situations de blocage du capital qui, on l'a dit, peuvent être à l'origine des conflits familiaux. Et puis, ça permet surtout de maintenir le contrôle par la famille en maîtrisant la dispersion du capital, surtout quand on commence à être nombreux.
Merci. J'ajoute qu'on avait un peu évoqué ce sujet-là avec Benoît Pellerin au dernier épisode. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce sujet-là, n'hésitez pas à écouter le sixième épisode. Caroline, merci beaucoup d'avoir participé à ce septième épisode du Family and Business Podcast.
Merci beaucoup, Jonathan.
Et comme je vous l'annonçais dans l'introduction, Family & Co va donc publier le premier guide pratique de son histoire que nous avons appelé Aborder le conflit avec optimisme, et ce sera mis en ligne sur le site de Family & Co dans quelques jours. On se retrouve très vite pour un nouvel invité. Il n'y aura pas de podcast au mois de novembre puisque nous préparons le Family & Business Forum, la deuxième édition, qui aura lieu le 1er décembre, et donc vous êtes invités à participer à cette grande célébration de l'entreprise familiale en France. Merci et à très bientôt.